Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Deep Impact, votre podcast tennis sur Eurosport. Je suis Sébastien Petit, ravi de vous retrouver pour débriefer l'actu de la petite balle jaune. Une émission spéciale, car je n'ai pas un, mais deux consultants à mes côtés cette semaine, Arnaud Di Pasquale, bien sûr, et Alizé Lim. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Salut Alizé, salut Seb.
Donc, Alizé Lim, ancienne tenniswoman professionnelle, consultante pour Eurosport et le groupe Warner Bros Discovery, notre maison mère, et aussi spectatrice très assidue des matchs de tennis à travers le monde, on peut dire ça ?
Ça fait.
Et pour que la fête soit complète, un journaliste de la rédaction vous donnera aussi la réplique comme moi, Maxime Battistella. Bonjour.
Salut à tous, je suis honoré, à deux pour le prix d'un, c'est magnifique.
Alors je disais fête tout à l'heure parce que c'est un peu la fête du tennis français en cette fin de saison, avec deux titres ATP remportés par nos Frenchies à Metz et à Sofia, une première depuis un certain temps. On vous détaillera tout ça avec la stat de notre partenaire G7Math. L'œil de Deep nous transportera du côté de Cancun. Cancun au Mexique, où la WTA a couronné sa reine de l'année. Et c'est tellement passé inaperçu qu'Arnaud a voulu rendre hommage à Iga Świątek, bien sûr. Enfin, pour terminer, d'un numéro 1 à un autre, on reviendra à Turin pour parler de Novak Djokovic, assuré de finir leader du classement ATP pour la 8e fois de sa carrière. Je rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Alors n'hésitez pas à nous noter, à nous laisser des messages, hein, ça fait toujours plaisir. Arnaud y répond fréquemment et Alizé aussi, bah, elle va s'y mettre maintenant qu'elle fait partie de la confrérie. Alors je crois que les joueurs sont prêts, alors Deep Impact, c'est parti. Alors avant de débuter, une petite parenthèse, sachez Alizé et Arnaud, donc, qui est dans ses notes, que vous avez des points communs, tous les deux. Voilà. Alors, un certain nombre, j'en ai relevé trois, hein, il y en a peut-être plus, mais je me suis arrêté à trois. Alors vous avez grandi tous les deux sur terre battue, votre surface de prédilection, c'est vrai ou pas ?
Oui.
Oui. Ouais, enfin,
moi,
pas plus que le dur, moi.
Pas plus que le dur. Bon, moi, j'avais lu la terre battue.
Déjà, c'est loupé.
Déjà, c'est loupé, mais bon. Attends, il y a mieux quand même derrière.
50-50. C'est pas combien de loupés, 50-50 avec le dur.
Vous êtes tous les deux droitiers.
Non. Vous avez eu une coupe au carré. Tous les deux, cheveux mi-longs hein, sur les épaules. Alors sachez pour ceux qui ne regardent pas les vidéos sur l'appli Eurosport qu'Alizé est noir de jet, hein, Arnaud, il est sur un petit blond quand même. Hein. Mais j'ai trouvé des photos assez marquantes en la matière. Hein. Tu ne peux pas renier ça, Arnaud.
C'est marquante ou c'est marrante ?
Marquante.
Ok, une attention photo. Quand même.
Mais on peut les voir là ou pas ?
Alors malheureusement, non quand même.
Tu ne les as pas imprimés ?
Je ne les ai pas imprimés, non.
Ce n'est pas le principe des vieux dossiers, là.
Non. Et enfin, quand même, juste pour finir, vous avez déclaré tous les deux, je ne suis pas la nouvelle Anna Kournikova. Voilà. Non, Arnaud, tu t'en souviens pas ? Oui. Cette ancienne joueuse russe, plus connue pour sa plastique que pour ses résultats. Bon, je dis ça pour les plus jeunes, hein, évidemment. Mais bon, voilà. On ne rappellera pas les circonstances de ces dires. Le passé reste le passé. Fermons cette parenthèse. Tournons-nous plutôt vers le présent et débutons avec ce feu d'artifice tricolore. Et ces deux titres ATP gagnés le même jour par Hugo Humbert et Adrian Manarino. Alors Hugo, il a gagné son quatrième titre ATP en carrière à Metz, devant un public, on va dire tout acquis à sa cause, hein, étant local de l'étape. Et Adrian Manarino lui a remporté son troisième titre de la saison à Sofia, en Bulgarie, devant un public, bon, on va dire plus neutre, hein, on ne va pas se le cacher. Mais c'est la première fois depuis 5 ans que deux Français n'avaient plus gagné la même semaine, même le même jour, un titre ATP. La dernière, vous en souvenez ou pas ? Une petite colle pour commencer. Eh bien, c'était Gaël Monfils à Doha et Gilles Simon à Pougné en tout début de saison 2018. Voilà, ça remonte un petit peu. Alors, pour Humbert, c'est un beau décollage. Hein, et enfin, une entrée dans le top 20 mondial. Enfin, pour lui qui a quand même 25 ans, mais qui était en dehors du top 100 en début d'année. Et pour Manarino, une sacrée consécration, car à plus de 35 ans, il remporte son troisième titre de l'année. Et devinez qui avait fait cela à son âge avant lui ? Une autre colle ?
Le Big Three.
Le Big Three, Djokovic, Federer et Nadal, ça place le bonhomme. Alors qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion pour la saison qui arrive, Arnaud ?
C'est assez marrant, parce que je trouve qu'on n'arrête pas de... On continue quand même, malgré tout, je trouve, d'être assez dur avec le tennis français cette année, alors qu'il y a quand même plein de choses très encourageantes. Et on en parle, alors on en parle nous régulièrement entre nous, mais j'ai le sentiment que c'est en train vraiment de prendre, d'émerger, d'éclore. Alors là, il y a plus un retour d'Humbert et tout, mais évidemment, quand je dis tout ça, je pense aussi à Arthur Fils, je pense aussi à Lucas Van Hache, enfin, et un certain nombre, mais même on en a parlé sur les émissions de MPC Péricard aussi, ça donne des idées, ça montre la voie, ça décomplexe en fait beaucoup de joueurs et de jeunes joueurs, et ça donne aussi envie à certains joueurs très expérimentés ben, de montrer qu'ils sont toujours présents, comme un Manarino qui nous le prouve cette année. Donc évidemment, c'est top pour la saison à venir, on se frotte les mains. Maintenant, après, ce qu'on attend, c'est des résultats, je pense, dans les grands chelems surtout. En fait, ce n'est pas juste des victoires en 250, des bons résultats dans les 500, dans les 1000, etc. Évidemment, on veut plus et c'est aussi cette exigence qui fait qu'on a tendance à être un peu dur avec eux, à mon sens. Mais moi, je trouve ça très encourageant. Moi, je trouve que ce que tu dis, Seb, c'est très juste. C'est surtout le parcours d'Hugo et sa régularité sur cette fin d'année, quand on sait d'où il est parti. En fait, c'est surtout ça. Ça, c'est quand même vraiment impressionnant. Moi, je trouve ça vraiment assez bluffant de sa part, et on avait même eu tendance à dire oui, mais attention, parce que là, il a gagné des tournois, enfin des tournois, des challengers et surtout des matchs contre des joueurs, un classement raisonnable, mais pas non plus pro top 100, pas top 50 et tout. Et finalement, on se rend compte que finalement, cette confiance engrangée lui a permis quand même de finir l'année en trombe, et ça a été un régal de le voir jouer aussi juste, avec autant de confiance, avec autant de plaisir aussi. Je trouve que ça, c'est un truc qu'il a vraiment communiqué énormément jusqu'au bout. Et il est passé outre la fatigue, l'enchaînement des continents, des matchs, des tournois. Voilà. Et Mana, rapidement, franchement, à plus de 35 piges, ce qu'il est en train de réaliser, c'est génial. Trois tournois remportés. C'est enfin, vraiment, c'est impressionnant. Et c'est il le met sur le compte de sa discipline, de sa rigueur, de son expérience aujourd'hui. Et tout ça est très juste. Voilà. C'est apprendre à se connaître aussi. Il sait qu'il lui reste probablement. Voilà, pas 10 ans, mais quelques années à tirer, et il va en tirer le maximum, et je trouve ça génial aussi.
Alors, Alizé, Arnaud parlait de français décomplexé. Est-ce que tu es d'accord avec ça?
Arnaud a tout dit là, que dire de plus? Décomplexé, oui. Alors le premier qui me vient à l'esprit quand j'entends ça, c'est Arthur Fils. Véritablement. Lucas Van Nash, je le trouve décomplexé sur le terrain et beaucoup plus timide en dehors, mais ça change rien à ses objectifs et à la croyance qu'il a en lui-même. Et effectivement, le fait de gagner trois tournois dans l'année, comme le fait Adrian Manarino, c'est qu'il a une ambition encore très forte. Il l'a dit lui-même, il a l'objectif d'être top 20. Donc c'est pas parce que il est sur la fin que on se dit bon, ben voilà. Maintenant, il n'y a plus de moteur ou quoi que ce soit. Le moteur est tout aussi grand finalement pour lui qui a un certain âge que pour les jeunes. Il m'a même dit, ça m'a rendu presque un peu triste, si jamais je finis pas ma carrière top 20, j'aurai l'impression d'avoir raté ma carrière. Donc c'est dire à quel point c'est important pour lui. Et effectivement, toute cette jeune génération qui affirme les objectifs, qui n'ont pas peur de dire ce qu'ils ont envie d'accomplir, que ce soit en termes de résultats en grand chelem, de classement ou de... Voilà, quand ils affrontent les meilleurs mondiaux, c'est un super exemple pour la génération qui va suivre, et on pourra s'appuyer sur cette jeunesse fougueuse qui est en train d'arriver.
Après 3 dernières saisons quand même relativement moroses hein, pour le tennis français, 2023 a un peu quand même relancé la machine du tennis français. C'est la stat de la semaine dégotée par notre partenaire Jeux 7 Maths. Avec 7 titres ATP gagnés cette année, le tennis français a signé sa 3e saison la plus prolifique en la matière. Depuis le début de l'ère Open, seules 2 saisons ont été plus fructueuses. C'était 85, 1985 et 2008. Il y a eu 4 autres saisons à ces titres, hein, 91, 2007, 2013, 2017. On est en train de se demander si, voilà, est-ce qu'on est en train de sortir du trou dans lequel était tombé le tennis français, elle disait.
Alors ça dépend, le problème c'est qu'est-ce qu'on appelle le trou? Parce que j'ai jamais considéré qu'on avait un trou, enfin, personnellement, peut-être parce que c'est mon caractère hyper positif et que j'ai toujours eu l'impression qu'on est une nation hyper représentée avec des très très bons joueurs depuis des décennies. Mais je pense que ce que le grand public attend, c'est des résultats en grand chelem, comme le disait Arnaud. Et là, pour l'instant, on attend, mais c'est encore un point d'interrogation. Donc si sortir du trou, c'est avoir un vainqueur de Roland-Garros, pour l'instant, on n'y est pas. Après, avoir des Français qui brillent, qui montrent l'exemple, qui affirment leurs ambitions, qui sont motivés, qui ont le sang, qui ont le couteau entre les dents, oui, on les a. Hugo Humbert, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on est un bel exemple également. Je pense Alexander Zverev, après son match à Bercy, lui a dit lui-même, tu dois être dans le top 20 tous les jours. Donc avoir l'idée d'avoir un Français qui sera probablement dans parmi les meilleurs mondiaux pendant les prochaines années, ça va donner une meilleure image du tennis français. Mais malheureusement, je pense que le grand public, quand il parle de trous, puisque moi personnellement je parle pas de trous, c'est les résultats en grand chelem. Et quand un joueur fait quart, j'ai pas l'impression que ça satisfasse qui que ce soit, malheureusement.
Alors, on rappelle que le bilan à Bercy n'était pas très bon aussi, hein, avec un seul Français au deuxième tour, et que effectivement en Grand Chelem, ça a guère été plus reluisant, avec aucun tricolore en huitième. Maxime, il n'y a que Caroline Garcia, en fait, côté fille, qui s'est hissée en seconde semaine cette année en Grand Chelem.
Oui, d'ailleurs, on a un peu tendance à l'oublier, puisqu'on parle de, on a beaucoup parlé de saison ratée pour Caroline Garcia. Évidemment, on la mettait en comparaison avec sa fin de saison 2022, qui était absolument extraordinaire. Oui, c'est là où le bât blesse côté français. Grand Chelem, Alizé parlait de quart de finale, mais quart de finale, on les a plus vus depuis Gaël Monfils, à l'Open d'Australie 2021, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est là où le bât blesse. Et c'est là où il faut que nos petits Français fassent de réels progrès l'année prochaine. Et je pense qu'ils ont les moyens de le faire. Notamment Hugo Humbert, qui a fait qu'un huitième de finale en carrière, je pense, en Grand Chelem, c'était à Wimbledon, en 2019. Et il a le potentiel vraiment pour le faire. Je vois pas pourquoi il n'arriverait pas à reproduire ce qu'il fait en 2 sets gagnants, en 3 sets gagnants. C'est un peu plus mental encore, un peu plus d'endurance physique, certes. Mais il a tous les atouts pour le faire. Et puis surtout, je pense qu'il a passé des caps sur le plan mental cette année. Arnaud disait sa progression fantastique. Et surtout, comment dire, à certains moments de l'année, il a su montrer que les blocages qu'il avait avant, il ne les avait plus. Je pense à la terre battue notamment. Je pensais qu'il pouvait pas jouer bien sur terre battue. Il a gagné deux challengers là-bas et sur terre battue, il a passer un tour à Roland-Garros sans fin. Donc c'est des petites étapes qui ont l'air de rien comme ça, mais qui sur le long terme, à mon avis, vont finir par payer. Et puis on attend beaucoup en termes de tête d'affiche du futur Arthur Fils, évidemment. Il a déjà battu deux top 5, si je ne dis pas de bêtises, avec Tsitsipas et Ruud à 19 ans. Ça veut dire qu'il a quand même un potentiel assez exceptionnel.
Et un titre gagné à ATP à Lyon, il faut
Bien
aussi le
sûr.
rappeler. Et il y a encore aussi un chiffre plein d'espoir quand même. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ça sur le circuit Challenger. 27 titres ont été gagnés par des Français cette année. C'est un nouveau record aussi. Donc le vivier est là. Il manque plus que l'étincelle. Arnaud, enfin, quelle serait cette étincelle en fait pour que cette saison 2024 soit vraiment incroyable?
Forcément des grandes victoires, quoi. Alors, si on n'a pas de quart ou de demi en Grand Chelem, faudrait une victoire en Masters 1000. Et là, déjà, ça permettrait quand même, je pense, de passer une étape supplémentaire. Parce que je crois qu'il faut aussi fonctionner par étapes. Quand on parle de 250, ensuite il y a les 500. Enfin, il y a vraiment des marches à chaque fois à gravir. Et alors après, on peut les brûler, tant mieux si on les brûle. Mais en même temps, ce n'est pas si simple. C'est-à-dire qu'avant d'ambitionner, me semble-t-il, d'aller gagner un Grand Chelem, il faut peut-être essayer aussi de se dire, il y a des 500 et des 1000 avant. Parce que forcément, on sait que c'est plus dur d'aller gagner un Grand Chelem. C'est beaucoup plus exigeants à tous les niveaux, physiquement, mais mentalement aussi. Et on sait qu'il y a des adversaires qui, à ce jeu-là, sont encore exceptionnels et ils sont toujours en activité. En tout cas, il y en a un toujours en activité. Et celui-ci, il est quand même dur à détrôner hein, quand on voit sa saison. Mais donc voilà, c'est ça ce qu'on attend. Maintenant, moi, le sujet, il est hyper intéressant parce que moi, je rejoins un petit peu Alizé. Je trouve que évidemment, quand on parle de trous, c'est aussi pour faire les gros titres. Et c'est de se dire, il manque la victoire, il manque, mais. Et c'est Laurent Vergne, hein, que l'on salue d'ailleurs, mais qui avait souvent tendance à dire, non, mais l'anomalie, c'est pas de ne pas gagner de grand chelem chez les garçons en France. L'anomalie, c'est d'en avoir gagné un, parce que finalement, il n'y en a eu qu'un de remporté par Yannick en 83. Faut quand même se dire ça. Et avant ça, c'était quand même assez pauvre aussi, et depuis, bah, il n'y en a plus. Alors, il y a eu des finales, c'est super. Après, c'est le fameux débat quid un peu du tennis français. Est-ce que c'est l'épaisseur, la profondeur, pardon, dans le top 100, le nombre donc dans le top 100 qui aujourd'hui fait qu'une nation est forte? Est-ce que c'est avoir deux top 10 et rien derrière? Nous, c'est vrai que depuis toujours, Eh ben finalement, j'ai le sentiment que le top 100 est alimenté et qu'il y a entre 10 et 15 représentants. C'est quand même colossal. Et ça, on a tendance à le minimiser. Bon, vraiment, je trouve que c'est quelque chose dont on parle, enfin, vraiment très, très peu, alors que c'est quand même énorme. Et ce n'est pas juste parce qu'il y a 1 million de licenciés, c'est parce qu'il y a un gros boulot qui est fait aussi dans la détection, dans les régions, dans l'accompagnement derrière. Et qu'après, enfin moi, je ne sais pas, d'être champion, et là, on ne va pas rentrer dans ce débat aujourd'hui, Seb, ça risque d'être trop long, mais c'est un truc qui doit venir de ses tripes, c'est un truc qui est individuel, c'est un truc qui est très perso, quoi. C'est singulier, ça appartient à chacun. Donc, ce n'est pas ni la Fédé, ni qui que ce soit, à un moment donné, c'est évidemment plein de choses que tu sèmes tout au long de ton parcours, mais ça doit appartenir à l'athlète et uniquement à l'athlète.
Ce qui manque aussi peut-être, c'est une locomotive. Hugo Humbert, on a quand même le sentiment qu'il peut, maintenant qu'il est dans le top 20, qu'il peut aller au-delà, qu'il peut monter dans le top 10.
Ah oui, c'est sûr et certain. Mais après, c'est pas parce qu'il n'est pas top 10 que c'est pas déjà une locomotive. Pour moi, ce qu'il a montré toutes ces dernières semaines, là, en finissant la saison comme ça, avoir un numéro 1 français, c'est déjà une locomotive. Et avoir une saison par un jeune comme Arthur Fils, c'est aussi une locomotive. C'est un peu double locomotive chez les jeunes pour montrer voilà, l'ambition qu'on peut avoir, la détermination qu'on peut avoir et qui paye le travail. Et Hugo a un autre niveau qui est revenu, qui a eu un parcours complètement différent parce qu'il est revenu de loin il y a un an, il était, je sais plus, 135 ou quelque chose comme ça. C'est déjà des locomotives pour moi.
En fait, ce qui est très important, c'est l'émulation, là. En fait,
Clairement.
c'est de se tirer la bourre, en fait. C'est de
C'est ça.
sentir, tu vois, là, ce qui s'est passé entre Humbert et Mannarino, c'est génial. C'est la place de
Magnifique.
numéro un français. Enfin, ils sont allés chercher un titre tous les deux. Si l'un des deux n'avait pas réussi, l'autre serait passé devant. En fait, c'est ça ce qui est important. Et ça joue de manière
Ce que
qui
disait
compense.
Humbert sur le sujet était très drôle d'ailleurs. Il disait qu'à chaque fois qu'il gagnait, il regardait le résultat de Mana pour savoir s'il avait gagné ou pas, parce qu'il avait envie,
Ouais.
il avait vraiment envie d'être numéro un. Mana disait que cette place de numéro un lui importait moins. Je sais pas s'il faut le croire ou pas. Il disait c'est surtout le classement ATP. Il veut donc cette place dans le top 20, comme tu disais, Alizé, tout à l'heure. Mais c'est vraiment ça, quoi. Hugo, il était sur son téléphone. Est-ce qu'il a gagné ou pas, quoi? Est-ce qu'il a gagné ou pas? Ça, c'est bien.
En plus, je crois que ouais, Mana a fini sa finale avant Hugo. Donc Hugo, en rentrant sur sa finale, savait qu'il devait gagner pour finir numéro 1, parce qu'il avait 15 points d'avance avant les tournois. Donc si vous voulez garder ces 15 points d'avance, il fallait qu'il gagne. Ouais, c'est hyper drôle de se tirer la bourre comme ça, mais c'est sain, c'est fait de façon saine. Mais après,
Exactement.
oui, voilà, chacun ses objectifs. Je sais que c'était extrêmement important pour Hugo, donc tant mieux si c'est une motivation supplémentaire.
On va passer à la rubrique que vous attendez tous, l'œil de Deep, avec cette semaine un hommage que Arnaud a voulu rendre à cette grande championne sacrée à Cancun la semaine dernière, presque dans l'indifférence générale.
Ouais, presque dans l'indifférence générale. Et c'est vrai que c'est important de revenir dessus. Alors, je veux parler de Iga Świątek, et non pas Świątek. Désolé pour la prononciation. Je dirais Świątek, qui
Comme tu
finit
veux, de toute
donc,
façon.
je sais, mais je sais, je sais. Il finit donc numéro mondial. C'est intéressant d'analyser, je trouve, sa saison. Globalement, ça n'a pas été simple. Il y a eu pas mal de bas et des hauts pour finir. Et justement, un énorme haut, puisque. Bah, je trouve que quand on parle de l'indifférence la plus totale, elle bat quand même Pegula en finale 6-0-6-1. En demi, elle bat Sabalenka 3-2. Elle est montée en puissance, elle a fini très très fort, très très fort, alors qu'elle a quand même un début de saison compliqué, avec un Open d'Australie décevant, on peut le dire, avec une petite blessure, alors des douleurs en tout cas, je crois, aux côtes, me semble-t-il, qui. Avec donc pas mal de doutes en fait cette année. Elle revient sur terre battue où elle est forcément très attendue. Alors oui, à Roland, qu'elle finit par gagner, mais globalement autour, c'est très équilibré. Il y a match avec Sabalenka. Il y a cette place de numéro 1 qu'elles vont essayer d'aller chercher toutes les deux. Je trouve ça assez intéressant, mais elle montre en fait là à la fin que la patronne c'est elle en fait. Et elle sort d'une saison de enfin 22 qui était phénoménale, qui était voilà où elle a vraiment dominer de manière de la tête et les épaules toutes ses adversaires. Et donc, c'était aussi pas facile. C'est jamais simple, je trouve, de rebondir comme ça, de repartir après avoir autant gagné, après avoir autant dominé. Et oui, bah, c'est un hommage parce que je trouve que c'est quelqu'un qui se remet énormément en question, qui cherche à progresser. Je trouve que c'est sa force, c'est vraiment évidemment le travail et le rebond perpétuel. C'est réussir à se remettre en question et trouver un petit peu les solutions pour justement à chaque fois être meilleur, revenir à son meilleur niveau. Y a ce truc de pas, cet état d'esprit, hein, de ne pas se lamenter, de pas se poser en victime, de jamais en fait se donner d'excuses. Moi, j'aime bien en fait cet état d'esprit en fait de se dire OK, je me retrousse les manches et j'y retourne et j'y retourne et je vais y arriver. Et je trouve que c'est ce qui lui permet de finir cette saison comme ça. Et on trompe évidemment. Et elle n'a que 22 ans. Et ça, on a aussi tendance à l'oublier tellement ça fait longtemps qu'on la voit sur le circuit.
Donc numéro 1 mondial pour la deuxième fois de suite, ça semble normal au premier abord, mais Alizé, pour toi, ça te paraît logique au final?
Bon, de toute façon, ça allait être entre elle et Sabalenka. Sabalenka avait extrêmement bien commencé la saison. Elle avait confirmé sur la saison sur terre battue. Elle se tirait un peu la bourre toutes les deux. Donc, il y aurait pu avoir l'une ou l'autre qui allait briller. Pour moi, il n'y a pas plus de logique à l'une ou à l'autre. Après, je rejoins vraiment Arnaud sur sa capacité à rebondir, mais surtout, elle est très honnête en conférence de presse, juste après ses matchs, sur les challenges psychologiques auxquels elle a affaire, de ce statut de numéro 1, de ce statut de favorite, qui est quelque chose qu'il faut gérer comme autre chose. Et elle est tombée dans certains pièges, elle les a évoqués elle-même, et elle cherche des solutions à chaque fois. Et c'est ça qui fait qu'elle avance. Au-delà de son tennis, qui est évidemment phénoménal. Et c'est surtout ça, je pense, qui l'a menée à la victoire au Masters. Et comme elle l'a dit elle-même, elle a été piégée par ce statut numéro 1 où elle avait l'impression qu'il fallait absolument qu'elle gagne, il fallait absolument qu'elle. Voilà, c'était devenu une norme, un peu comme à l'époque, Naomi Osaka en avait parlé. Et là, elle a vraiment réussi, alors je ne sais pas de quelle façon, elle a dû faire un gros travail psychologique, à mettre ça de côté, jouer son tournoi, match par match. Elle arrive au bout et le statut numéro 1 au final, ça a été elle l'a pris comme la cerise sur le gâteau et elle n'en a pas fait un objectif et une obsession pendant ce tournoi, sans quoi elle serait peut-être tombée dans un autre piège dans lequel elle est tombée, par exemple en début d'année à l'Open d'Australie.
Et cette année, Świątek, c'est vrai que c'est assez monstrueux. Hein, 63 victoires en 74 matchs. C'est Djokovic, on est à 52, hein, par exemple. 6 titres WTA, donc dont un quatrième titre en Grand Chelem à Roland et donc son premier Masters. Et 20 jeux concédés en 5 matchs de Masters. C'est deux jeux par set en moyenne. Hein, c'est un record aussi. Et au final, 245 points de plus que Sabalenka. Et Maxime, on mesure pas en fait à quel point ce qu'elle a réalisé est extraordinaire.
Oui, je pense qu'on ne le mesure pas parce qu'elle avait fait une saison 2022 absolument époustouflante. Et donc, on avait presque l'impression qu'elle était rentrée dans le rang. Mais bon, comme tu dis, 6 titres, c'est le double de Sabalenka cette année, par exemple. Sabalenka, elle a gagné 3 titres. Alors, la différence entre les deux et ce pourquoi on pense que Sabalenka méritait tout autant, si ce n'est plus, selon les avis, d'être numéro 1, c'est que Sabalenka a été bien plus performante en Grand Chelem. Elle a non seulement gagné un titre du Grand Chelem comme Świątek, mais elle a systématiquement fait au moins demi-finale. Elle a fait demi-finale à Roland, elle a fait demi-finale à Wimbledon et elle a fait finale à l'US Open. Alors que Iga Świątek a fait huitième à l'Open d'Australie, huitième si je me trompe pas à l'US Open et quart à Wimbledon. Donc à ce niveau-là, au niveau des grands chelems, Sabalenka était supérieure. Mais ce que je veux mettre en avant, et ce que disait Arnaud très bien, c'est que surtout aussi, c'est Świątek, son grand point fort, c'est son adaptation. Elle arrive à s'adapter aux conditions beaucoup plus vite, j'ai l'impression, que la plupart de ses concurrentes. Au Masters, WTA, on va en reparler, mais c'était des conditions apocalyptiques, c'était la saison des, je sais pas si on peut dire des tornades ou des ouragans à Cancun, mais il y avait beaucoup beaucoup de vent, c'était infernal comme condition de jeu. Le court principal a été prêt, je sais pas, 2 ou 3 jours avant l'événement, elles n'ont pas pu s'entraîner dessus. Donc il y avait beaucoup de conditions très très difficiles à gérer, et je pense que ce sont ces conditions qu'elle a le mieux appréhender par rapport à ses adversaires. D'ailleurs, elle le disait elle-même, tu demandais à Lisée comment elle avait pu mettre cette place de numéro 1 un peu de côté. Elle disait justement qu'elle se concentrait sur le fait d'essayer de jouer au moins au tennis dans ces conditions. Et je pense que c'est ça, en fait,
Il a rendu service en fait.
voilà, qui lui a rendu service exactement et paradoxalement, en fait. Et une autre chose, un autre élément, c'est que après l'US Open, je pense qu'elle s'est calmée à ce niveau-là en termes d'objectifs de place numéro un mondial parce qu'elle se disait que finalement Sabalenka avait les clés et que bon, elle devait se concentrer sur la meilleure manière de finir la saison. Et finalement, une chose entraînant une autre, elle a réussi à atteindre cet objectif en finissant quand même sur 11 victoires d'affilée. Donc oui, en fait, ce qu'on ne soupçonne pas chez Iga Świątek, c'est ce côté presque machine alors qu'elle a beaucoup d'émotions. C'est ça, ce paradoxe en fait. Elle a beaucoup de mal à contrôler ses émotions et en même temps, quand elle est sur une dynamique comme ça, elle semble inarrêtable, absolument inarrêtable. Elle a mis 22-6-0 cette année, cette saison, à ses adversaires. 22-6-0. Je ne sais pas si on se rend compte à quel point, quand elle est dans la zone, quand elle est dans son jeu, elle est intouchable.
Et tu parlais de conditions apocalyptiques. Je ne sais pas si, Alizé et Arnaud, vous avez joué des tournois avec des conditions de jeu pareilles, mais entre effectivement la qualité du court médiocre et une météo désastreuse, et une finale jouée le lundi, il faut aussi le rappeler, c'était l'un des plus gros fiascos de l'année au niveau WTA. Vous avez connu des conditions de jeu comme ça, aussi extrêmes?
Oui. Non mais oui, forcément, non, je sais pas. Non mais oui, enfin
Vas-y.
après le truc en fait pour moi la différence c'est que tu peux avoir ce genre de conditions dans les tournois un peu secondaires entre guillemets. Là quand tu es sur un Masters, enfin ça fait tâche. En fait, il est là le sujet, enfin à mon sens. Mais après, tu sais quoi, quand ça arrive mille fois, j'exagère, toujours un petit peu, ça arrive très souvent de se retrouver dans des conditions très difficiles, voire exécrables. Dans l'année, maintenant, on en parle un peu moins parce que c'est pas le Masters et que là, il y a quand même un petit peu tous les projecteurs qui sont sur les 8 meilleures joueuses du monde, donc c'est différent.
J'ai quand même passé beaucoup de temps de ma carrière sur le circuit secondaire, alors je peux t'en parler des conditions exécrables et peut-être que ça m'aurait paru Roland-Garros hein, d'être là-bas, je sais pas. Non, ça fait partie. Avant d'arriver à un certain classement, c'est le sel de ton métier, de t'adapter à toutes sortes de conditions. Et là, je te parle de choses que tu peux pas imaginer, des lignes, si la balle touche la ligne, la balle roule, la balle te lobe. J'ai vraiment tout connu. Après, il y a l'Australie, le vent, je me rappelle, il fallait bloquer les balles, retourner les chaises parce qu'il y avait tellement de vent que les chaises s'envolaient pendant les points, enfin,
Ah,
des
c'est dangereux
conditions
en plus.
fantastiques. Ah non, j'en ai connu, donc je compatis énormément, mais après, comme le disait Arnaud, le problème, c'est que quand tu arrives au Masters, c'est là où tu as envie de briller, tu as envie de faire du beau tennis et tu n'as pas envie que ce soit à ce moment-là que tu sois dans l'adaptation absolue pour essayer de fournir ce qui fait partie de ton travail et ce qui fait partie de leur travail, et elles le connaissent par cœur, ça. Mais ce n'est pas le moment où tu as envie de souffrir sur ces choses-là, quoi. Donc, je pense que c'est peut-être. Ouais, vous avez peut-être l'impression que, pour une fois, ça, c'est quelque chose qui peut être contrôlé par la WTA et qui a donc mal été géré de ne pas les mettre dans des bonnes conditions, puisque si on ne les met pas dans des bonnes conditions au Masters, où est-ce qu'elles vont être dans des bonnes conditions?
En fait, ça méritait plutôt des conditions indoor plus que outdoor en cette période de l'année. En tout cas, c'est
Sûr.
Steve Simons, hein, le président de la WTA, qui a été sérieusement pointé du doigt parce qu'on a même parlé du nombre sur le tennis et le sport féminin en général. Si on reprend les termes de l'association de joueurs PTPA de Djokovic, ça a plus fait de la mauvaise pub au tennis féminin qu'autre chose.
Ou pas de pub du tout, dans le sens où déjà le tournoi est mal placé, dans le sens où il est en concurrence avec Bercy, plus le décalage horaire. Et ce qui est le plus problématique, à mon avis, c'est qu'on ne connaisse la destination de ce Masters que quelques semaines avant. Ça a été choisi en septembre. C'est pas normal. Côté masculin, Turin, ça a un bail de je sais plus combien d'années. Enfin, on le sait que ce sera à Turin dès janvier. Hein, il n'y a pas de problème. Hein, c'est tout ça. D'ailleurs, ça s'appelle la race to Turin, la course à Turin. Donc c'est fou que pour les joueuses, ce soit pas la même chose. Ça devrait être la même chose. Et on en arrive à des situations ubuesques. Je veux dire, la précédente édition, c'était pas beaucoup plus glorieux. Hein, donc
Non, oui, il y avait personne à Fort Worth, ouais, c'était au Texas. C'était pour le coup, je pense que le stade était magnifique, mais il était vide. Il était beaucoup trop
Exactement.
grand. Et puis c'était dans une ville où personne s'intéressait au tennis. Et c'est pareil, je pense que ça avait été décidé plus ou moins, enfin voilà, pas en début d'année non plus. Donc bon, après, ils disent qu'ils n'ont pas eu d'offres, qu'il n'y a pas eu d'offres en Europe, que c'est compliqué. Ils avaient l'option de l'Arabie Saoudite, c'était pas non plus idéal, pour
On
les
peut
raisons qu'on
comprendre.
connaît. Voilà, donc on ne sait pas, on n'est pas dans la politique, les petits papiers, mais c'est clair que Est-ce que c'est la faute de Steve Simmons qui gère mal ça pour pas trouver de meilleures offres, ou est-ce que vraiment le tennis féminin est à ce point peu désiré? Je sais pas.
Alors pourquoi est-ce qu'on ne rassemble pas les deux événements, quitte à faire commencer les filles d'abord à Turin et après les garçons? C'est vraiment incompatible, ce genre de choses, à votre avis?
Tu vas lancer une autre heure de débat là, non?
Non, je sais pas, c'est une question qui me vient comme ça.
Non,
je crois que l'ATP et la WTA, c'est de longues années de pas forcément très bonne entente. Je suis pas sûr que ce soit quelque chose qui soit envisagé tout quoi.
Bon, en tout cas, c'est une piste.
Vraiment deux entités différentes qui mènent leur vie de manière séparée.
Ouais, mais après, on a aussi entendu dire que l'ATP et la WTA allaient justement se rapprocher de plus en plus et essayer d'avoir des événements en commun, notamment les plus grands. Les grands chelems y arrivent bien.
Les fameux combined events. Ouais. Et c'est la réforme de l'ATP, One Vision, là, sur les Masters 1000. Qui sont en 12 jours maintenant, hein. Enfin, qui la plupart en 2025, ils seront 7 sur 9 à être sur 12 jours. Et oui, l'objectif, c'est d'organiser à la fois des tournois qui soient à la fois féminins et masculins. Donc, dans cette logique-là, je trouve que ton idée, Sébastien, à Turin, ce serait une belle idée. Après, je sais pas, comme dit Alizée, c'est pas les relations sont pas tout le temps fluides entre la WTA et l'ATP.
En tout cas, là, il va bien falloir qu'ils prennent une décision, parce que je pense que l'année prochaine, si ça se repasse encore comme ça, ça fera encore plus de bruit.
C'est d'autant plus regrettable que je trouve, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais que cette année, et puis depuis 2 ans presque, le tennis féminin a regagné en densité et en intérêt sportif vraiment. Enfin, c'est le top 10 féminin. Ça joue vraiment très très bien au tennis et il y a des personnalités qui émergent. On parle évidemment de Świątek, on parle de Coco Gauff qui a gagné l'US Open, on peut parler même d'une Rybakina qui est plus froide mais qui a un vrai caractère aussi. Sabalenka, je trouve qu'il y a un regain d'intérêt pour le tennis féminin et une qualité de jeu qui mérite autre chose que ce Masters de Cancun.
C'est une très belle conclusion, ça, Maxime.
Ouais,
bravo.
T'as oublié 11 jabber dans la liste.
11 jabber, bien sûr.
Oh là
là,
scandale. C'était une belle conclusion.
Attends, tu parles de personnalité, j'étais obligée.
Mais t'as raison. Heureusement que t'es là.
Une sacrée personnalité, c'est pour ça. Non, et je pense qu'elle apporte énormément au tennis féminin. Tu vois, donc,
elle a un jeu atypique en plus, c'est génial.
Enfin, bon. Personnalité atypique, elle représente, elle tient le flambeau du tennis de tout un continent, du tout le continent africain avec brio.
Et en plus, le circuit WTA va retrouver Naomi Osaka l'année prochaine, d'après ce que j'ai compris aussi, ce qui va redonner encore un peu plus d'intérêt, parce que la WTA va retrouver une ancienne numéro 1 mondiale, donc ça va encore donner un peu plus de sel à ce circuit qui est effectivement très très intéressant.
Un autre retour de numéro 1 mondiale, parce qu'on a eu Caroline Wozniacki aussi cette année.
Exactement.
Et Caroline Wozniacki également, tout à fait. Parlons de numéro 1, on va finir avec celui qui est consacré pour la 8e fois numéro mondial en fin de saison. Novak Djokovic, bien sûr, hein, pour ne pas le citer, hein, encore un petit chelem à son actif, 6 titres cette saison avant un éventuel 7e à Turin. Et cette question un peu savonneuse, je vais la donner à Alizée parce qu'elle m'a l'air bien à l'aise. Lequel t'impressionne le plus entre les deux numéros 1 cette année, entre Świątek et Djokovic?
C'est moche. Écoute, Iga Świątek, elle est assez froide et fermée quand elle fait ses interviews. Elle est très professionnelle. Bon, voilà, elle fait son travail. Novak, il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé à Bercy, c'est la tension qui règne quand il arrive dans une salle d'interview, qui n'est pas du tout la même que quand, pour en avoir fait beaucoup cette semaine-là, qui n'est pas du tout la même que quand les autres joueurs sortent du terrain. Il y a beaucoup plus de monde déjà qui débarque. Je ne sais pas trop pourquoi. Je ne sais pas si c'est des personnes de sa team, je ne sais pas si c'est tous les journalistes qui ont envie d'assister aux quelques questions qui sont posées en sortant du cours. Et puis là, il y a un silence qui pèse, qui est impressionnant. C'est-à-dire que moi, j'avais le cœur qui battait, qui sortait de ma poitrine, parce que je me disais d'un coup, là, faut pas que je me plante, faut pas que je me plante. Et je pense que tout le monde est un peu dans cette vibe-là, où d'un coup, il arrive, il impressionne tout le monde. On a l'impression que c'est le président des États-Unis qui arrive, il faut faire place, il faut se taire, et voilà. Alors, j'ai réussi à désacraliser ça, parce que comme je le connais d'avance sur le circuit, j'ai fini par lui dire, avant même de commencer l'interview, je lui ai dit, mais c'est terrible quand c'est toi, mais c'est incroyable cette tension, c'est hyper stressant. Il me dit mais non, ça va bien se passer. Donc il est gentil, tu vois, et pourtant il fait le travail, c'est pas comme si Il coupait court aux réponses, il est extrêmement professionnel, il fait des réponses d'une minute trente, c'est une vraie valeur sûre à interviewer. Mais il y a vraiment quelque chose. Et alors, je n'ai pas interviewé Rafa dans des sorties courtes comme ça, mais il paraît que c'est un peu similaire, mais pas tant. Et je pense que, je ne sais pas, peut-être que comme on sait que Novak bouillonne énormément quand il sort du cours, comme sur le cours il bouillonne, que peut-être tout le monde est sur le qui-vive.
Est-ce que Maxime, toi aussi, tu as ton petit cœur qui bat quand tu vois Novak Djokovic arriver en conférence de presse?
Et moi, j'ai mon cœur bat tout le temps, tu sais. Non, mais
S'en balle alors.
les conférences de presse, pour être honnête, je suis pas tout le temps accrédité sur le circuit, donc les rares fois où j'y suis, c'est toujours un moment spécial et de voir ces athlètes en vrai entre guillemets, ça fait toujours bizarre. Donc il faut rester dans sa question, rester dans son rôle, et c'est pas tout le temps simple. Pour ce qui est du côté solennel, oui, il a une aura. C'est marrant ce que tu disais, Alizé. C'est vraiment, c'est les trois, je pense. Je parle aussi de Roger Federer qui a arrêté il y a un an, mais officiellement, on va dire 2 ans presque maintenant. Les trois ont quelque chose de différent, mais les trois, c'est toujours spécial ce qui se passe en conférence de presse. Quand Federer arrivait, je l'ai vu une ou deux fois. Il y avait presque une auréole autour de lui, quoi. Il y
Mais
avait
est-ce que
une auréole.
c'est
Oui, oui, oui.
de l'admiration comme voilà,
Ouais. Oui,
il arrive, ou est-ce que
il y
c'est
a.
de la tension? Avec Novak, c'est de la tension. Et je me
Oui,
suis
je
demandé,
suis d'accord.
est-ce que c'est l'aura qui fait ça? Est-ce que c'est le nombre de grands chelems, ou est-ce que c'est la personnalité? Et je n'ai pas réussi à répondre.
C'est une bonne question. Je pense que chez Federer, c'était de l'admiration, en effet. C'était beaucoup plus de l'admiration due à son style, due à ce qu'il représente aussi d'un point de vue plus que tennistique, on va dire. Pour Djokovic, évidemment, il y a ce côté. En fait, c'est un personnage clivant, et c'est ça qui est intéressant avec lui. C'est que soit on le déteste, soit on l'adore, soit on adore le détester. C'est un peu ça. Et en même temps, ce qui est génial avec lui, il faut le dire, c'est que c'est un type extrêmement intelligent, et qui, de toute façon, on aime le mettre en difficulté parce qu'on sait qu'il saura s'en sortir aussi. Donc il y a quelque chose d'ambivalent, et j'ai même un peu l'impression que, même si c'est pas la même relation entre journaliste et Djokovic qu'entre le public et lui, il y a ce jeu-là qui s'installe. Je me rappelle à Bercy, avec le public, Djokovic a fait, on va dire, exprès de susciter un peu les sifflets pour se remettre dedans. Donc il y a quelque chose comme ça. Il y a un échange qui s'organise avec Djokovic, et ça se passe aussi en salle de conférence de presse.
Alors moi, je ne vais pas le voir en conférence de presse. Moi, ce que je me dis là quand je vous écoute, c'est qu'en fait, c'est un gars qui a intelligence, ça c'est certain, et qui est très très bon en fait partout où il va, et qui est aussi exigeant sur le terrain qu'en dehors du terrain. Et ouais, je trouve que justement, j'ai en tête quelques conférences de presse comme ça où c'est vrai que souvent d'ailleurs sont relayées, tu vois, quelques-unes de ses réponses, parce que ce sont pas toujours des questions simples. Et il retombe toujours sur ses pattes avec une certaine aisance. Il a toujours, il a le sens de la répartie. Il est très bon. Moi, je trouve que c'est là où moi je. Alors, ouais, il est clivant, c'est vrai, et c'est très bien en fait. Il y a un moment aussi, c'est bien d'être clivant. C'est bien aussi de pas être apprécié de tout le monde. C'est bien de pas suivre un petit peu ses comportements. Voilà, classique de gens bien élevés. Enfin, c'est bien aussi de dire ce qu'on pense. C'est bien de dire que. Parce que là, on peut lui reprocher ce manque ce manque de sincérité. Il en a conscience, et en fait, finalement, il s'en fout un petit peu. Je trouve que. Alors, je ne sais pas. Alors, il y a beaucoup de contradictions, évidemment, mais moi, ce que je ressens quand je vois Djoko, c'est que de toute façon, on a quand même parlé des trois ogres, un peu des trois monstres. Enfin, ce qui leur permet aussi. D'avoir cette aura, c'est 20 grands clés mais plus. Hein. Il y a un moment,
Sûr.
c'est bien beau, on va pas se raconter d'histoire, tous les autres sont à des années-lumière. Et Djoko, lui, j'ai le sentiment qu'il ne veut pas juste battre des records, il veut que ses records ne soient jamais battus. Et je crois que c'est là,
Il y a de
presque, qu'aujourd'hui, non mais j'ai l'impression que maintenant, c'est ça en fait ce qu'il va chercher. C'est se dire, attends, Là, je n'ai pas le droit de passer à côté d'un. Et tu posais la question à Alizé, entre les deux, entre Swiatek et Djoko cette année, ben, trois grands chelems, enfin, le remporter plus une finale, malgré tout,
Oui, bien sûr.
c'est Djoko, quoi, point. C'est monstrueux. C'est monstrueux. C'est ben, c'est irréel, en fait, ce qu'il est encore en train de réaliser. Moi, c'est hallucinant tellement il est plus fort et il l'a montré. Sur le Rolex Paris Master, c'est hallucinant ce qu'il a fait. Il n'était pas bien, je sais pas, il passait ses journées aux toilettes et puis finalement, il arrive quand même à s'en sortir toujours et à remporter. Enfin, je sais, c'est presque impossible en fait,
Est-ce
tellement
que vous
c'est.
pensez justement que l'aura qui dégage tout ça, ça a aussi une énorme influence sur la concurrence qui n'arrive quand même pas beaucoup à contrarier sa
Bien
domination?
sûr.
Alors, il y a eu Alcaraz pour le battre en Grand Chelem cette année, même depuis un an et demi, si on remonte à Roland-Garros l'année dernière. Qu'est-ce qui pourrait changer ça, à ton avis, Alizé?
Alors, je ne sais pas si l'aura fait tout, parce que j'ai trouvé quand même que Holger Rune et André Rublev m'ont vraiment bousculé au Rolex Paris Master. J'avais l'impression qu'ils y croyaient. J'avais l'impression qu'ils étaient assez relativement décomplexés. Et Holger Rune, là, à Turin, lors de leur premier match aussi. Donc, peut-être la génération qui a grandi et évolué avec le Big Three, oui, mais pas forcément les jeunes. Je pense qu'ils ont trouvé des moyens de le déstabiliser. Alcaraz n'est pas si complexé que ça puisqu'il l'a battu en finale de Wimbledon. Je pense que c'est vraiment son niveau de jeu qui parle. Alors oui, il y a toujours une partie qui est jouée au vestiaire. Oui, il est respecté, évidemment, c'est indéniable. Mais c'est quand même son tennis. C'est son tennis qui fait qu'il a encore une marge, il est plus fort et que même quand il se sent pas bien, là, comme au Rolex Paris Masters, il joue au niveau moyen et il arrive à gagner en poussant quand il le faut. C'est tout. Et c'est ça qui fait la
Non, mais en
différence.
fait, oui, mais non, mais c'est le niveau moyen en fait qui est important. C'est ce qu'elle dit, c'est son niveau moyen, pendant que les autres en face sont obligés d'être en état de grâce pour le battre. Et l'état de grâce, tu le trouves même pas une fois par an. Donc c'est dommage. Ça va pas être simple. C'est ce
Ouais,
qu'on peut se dire.
ils les
Alors,
ont eu en 7, quoi.
oui, mais
Ils
ça
l'ont en
suffit pas.
7, mais ça suffit pas. Après, le problème,
C'est
c'est
pas
qu'avec son
suffisant.
niveau moyen, il arrive
Il a
à.
réponse à tout. Il
Ouais,
a réponse
c'est
à tout.
ça. Il faudrait un très mauvais Novak et le meilleur d'un joueur pour que ça arrive.
Donc ça peut se passer sur
La
l'espace d'un
limite, le
match.
pourcentage.
Donc sur un match, c'est possible, mais sur une saison entière, ça paraît même compliqué. Même Alcaraz, Dieu sait qu'il est fort, n'arrive pas à tenir aussi la cadence.
Oui, c'est compliqué, mais c'est surtout que aussi Djokovic peut se permettre de, vu son niveau moyen, justement, de faire de grandes pauses dans sa saison. Ça change beaucoup de choses en termes de fraîcheur mentale. Tu parlais de fraîcheur mentale. Là, Djokovic, il avait plus joué avant Bercy, entre guillemets, depuis septembre, il me semble. Septembre, c'était Coupe Davis, un match de Coupe Davis. Donc, ça change beaucoup de choses.
Et une autre question comme ça, un retour de Nadal l'année prochaine, ça pourrait changer quelque chose, à votre avis?
Alors, c'est un vrai point d'interrogation.
C'est un
Hein.
petit wait and see, mais je sais pas si ça peut changer. Enfin,
Merci.
c'est difficile là, franchement. De toute façon, après, on a un joueur quand même plus polyvalent au départ, quand même. Et ok, très bien, on peut l'attendre spécifiquement sur Terre, mais sur d'autres surfaces, après un aussi long arrêt, ça paraît quand même peu probable. C'est peu probable. Après, le problème, c'est qu'avec ces gars-là, franchement, tout est possible. Mais là, comme ça, sur le papier, Djoko a pris de l'avance.
Autre chose, est-ce que jouer aussi à la même époque qu'un monstre comme lui, ça peut aussi décourager les autres? Toi, Lisée, tu as connu l'époque Serena Williams. Arnaud, toi, tu as connu une période un peu plus transverse avec des Sampras, des Safin, des Agassi. C'est formateur ou ça peut être aussi destructeur?
Moi, je pense que ça crée une émulation et que ça motive tout le monde. Je pense que ça tire tout le monde vers le haut parce qu'il a un X sur le dos et que tout le monde va chercher à s'améliorer. Tout le monde, tous ces joueurs du top 10 ou même du top 20 ont en tête de vouloir gagner un grand chelem et essayer de passer dans le trou à un moment donné où il y aura ce petit trou et ça les motive, forcément. Bon, enfin, moi, je le vois comme ça. Je ne vois pas des joueurs se démotiver en se disant bon, bah, de toute façon, ça ne sert à rien, on ne peut pas gagner contre lui. Non, au contraire.
En tout cas, ça t'a motivé, toi, Arnaud, puisque tu as quand même battu Sampras et Safin. Pas rien, quand même.
Oui, mais il y a des jours où ils sont moins bien, tu vois, la preuve. Et
Non, c'est
hein,
pas
tu
vrai, c'est
vois?
pas vrai.
Non, non, mais enfin, tu vois, après,
C'est le match d'état de grâce pour toi?
Non, pas du tout. Non, le match
Une
d'état de
fois,
grâce, c'était.
ça peut être une surprise. Deux, trois
Match...
fois, c'est plus une surprise.
Non, non, t'as raison, mais match d'état de grâce, c'était pas ça. Par exemple, tu vois, c'était Ferrero, tu vois, aux Jeux Olympiques. Il y en a un ou deux comme ça où tu t'en souviens, où tu voles et tu te sens. invincible. Tu vois, ta cape de Superman et tu es au-dessus et tu te dis n'importe qui avec une raquette de ping-pong et tu gagnes quand même. Et ça, c'est génial. Mais malheureusement, ce n'est arrivé qu'une fois. Et c'est ça le problème. Non, mais moi, je l'ai vécu autrement. Je trouvais ça juste génial, en fait, de participer à tout ça. Enfin, voilà, de les rencontrer. Enfin, déjà, c'est voilà, une sorte de privilège, en fait, déjà, tout simplement, de pouvoir les affronter, de se mesurer à eux. Et après, tu sais quoi, tu fais ce que tu peux, toi, avec tes armes. Et on n'est pas tous égaux. Et on le sait. Enfin, à un moment, c'est aussi une réalité. Alors, sur le moment, peut-être que tu ne le sais pas et tu te bats, mais ce n'est pas un truc qui est décourageant. C'est un truc qui ne peut être que, à l'inverse, fait pour te motiver, pour progresser, pour être meilleur. Après, bah, tu avances. Le problème, c'est que eux aussi avancent tout le temps. Et elle est là, la difficulté, c'est que tu réduis pas forcément l'écart. Parce que eux, quand on voit leur carrière en 20 ans, parce que ça fait 20 piges qu'ils sont sur le circuit, ils ont tous progressé aussi. Il est là le problème. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas atteint leurs limites. Tu vois, et c'est, en fait, c'est un peu ce truc, moi, que je me suis dit à un moment, avec le recul, où je me dis, OK, toi, tu progresses, mais bah, eux aussi, malheureusement. Donc, finalement, l'écart reste le même. C'est dommage.
Non, mais juste pour revenir sur ce que tu dis, Alizé, c'est un facteur motivant et ça doit l'être d'autant plus pour les jeunes qui n'ont pas de complexe dont elle parlait. Runeux, Alcaraz, il n'y a que cette génération-là, Sinner à mon avis, qui va pouvoir, on va dire, restreindre les perspectives de Djokovic à l'avenir, qui quand même va continuer de prendre de l'âge. Et donc, avec ces. Il n'y a que, en fait, et ça ne peut venir que d'eux, je pense.
Et pour l'instant, ça l'amuse, hein, Novak. Hein. Ça l'amuse. Il l'a dit pendant le discours après Open Next Paris Masters, ça, hein. Next Gen, they say, hein. Next Gen. Donc c'est bien, ça le motive lui aussi. Lui aussi, c'est pour ça qu'il continue à progresser. C'est parce qu'il voit les autres arriver derrière et que il est quand même, j'ai envie de dire, il doit probablement être accro même. Je sais pas, il doit y avoir une forme d'addiction à ce statut. Je peux qu'imaginer. Et j'imagine que c'est un moteur pour lui d'avoir tous ces gars qui ont envie de le détrôner.
Et je parlais d'époque transverse. Si j'avais été joueur de tennis, j'aurais adoré jouer à ton époque, Arnaud, parce que tu as quand même affronté tout ce qui s'est fait de mieux, quand même. On parlait de Sampras, Agassi, Safin, mais tu as aussi joué contre, évidemment, Federer, Nadal, Murray, Djokovic, si ma mémoire est bonne. Donc
Ta mémoire est bonne.
c'était quand même assez
Ouais,
exceptionnel ce que tu as vécu.
mais en fait, tu sais quoi? C'est ce que je me dis souvent. Ouais. J'ai pu ouais, tous les jouer, tous les rencontrer. Et j'ai trouvé ça assez cool. Ouais. C'est vrai, cette génération. Enfin, tu vois, moi, j'ai plutôt forcément grandi en idolâtrant plus les Sampras et Agassi. Donc, quand tu arrives là, tu trouves ça un peu chelou quand même dans le vestiaire avec eux. Mais bah, après, tu le fais pour ça et c'est génial. Et puis, en effet, il y a eu cette transition et tu On ne pouvait pas savoir à ce moment-là à quel point ils seraient forts, évidemment, même s'ils avaient tous le potentiel, et notamment Federer, hein, qui a vraiment ouvert la voie. Mais c'est cool, ouais, de les avoir affrontés, de les avoir joués, d'avoir participé encore une fois à toute cette histoire. Ouais. Bah après, j'y pense pas tous les jours, ça, pour être
Mais
honnête.
tu devrais,
voilà, c'est pour ça qu'on est là, tu vois.
tu te réveilles
C'est
un peu
pas.
Mossad, rappelle-toi ça. Fais-toi
Non,
des
non, bien
regarde-toi
sûr.
des vidéos.
Mais je me réveille jamais, Mossad. C'est ça le
Ah, mais
problème.
bon, bah ça va, t'as pas besoin de
Oh
ça
là
alors.
là, jamais, jamais. La vie est belle.
Et ben voilà, ce sera le mot de la fin. Merci de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode que vous pourrez retrouver sur toutes les plateformes de podcast. N'oubliez pas que le Masters de Turin est à suivre en exclusivité sur les antennes et applications Eurosport. Jusqu'à dimanche, donc abonnez-vous si vous ne voulez rien rater de ce dernier grand événement ATP de la saison. Merci, Alizé, d'avoir passé ce moment avec nous. On espère
Merci
te
à vous.
revoir et t'écouter prochainement, évidemment. Merci, Arnaud et Maxime. On se retrouve la semaine prochaine pour tirer le bilan du Masters. D'ici là, portez-vous bien et n'hésitez pas à aller taper la balle. À bientôt.
À
À
bientôt.
bientôt.
Ciao.
Salut à tous.
Salut. Salut.